Frère Thomas-Marie, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour Jérôme, bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria. Toujours une joie de vous retrouver en ce quatrième vendredi du mois pour notre rencontre mensuelle autour des saints et saintes de l'ordre dominicain. Et aujourd'hui, la figure de la bienheureuse Marie Pouspain. Alors avant d'aborder précisément quelle fut la vie et le témoignage de Marie Pouspain, il faut la replacer dans son contexte. Donc on va faire un petit détour historique pour bien la comprendre parce que ça me semble important. Marie Pouspain naît à Dourdan le 14 octobre 1653. Et donc vous savez, c'est le grand siècle pour nous en France, le XVIIe siècle. C'est ce siècle qui va être d'une grande effervescence théologique, spirituelle pour l'Église dans sa réception du Concile de Trente. C'est, vous le savez, l'époque de ce qu'on a coutume d'appeler l'école française de spiritualité, avec deux objectifs, la formation du clergé, des objectifs qui avaient été donnés par le Concile de Trente, et les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde en faveur des plus pauvres. Alors, dans cette école française de spiritualité, eh bien, il faut d'abord peut-être citer l'inspirateur spirituel de tout ce mouvement, Saint-François de Sales, dont vous savez qu'il a fondé les Sœurs de la Visitation avec Sainte-Jeanne de Chantal et qu'il a écrit ce grand best-seller de la vie spirituelle, de l'introduction à la vie chrétienne, l'introduction à la vie dévote. Ce sera un best-seller dans tous les séminaires, dans tous les coins de table des familles, jusque dans les premières années du XXe siècle. Et puis il y a aussi le cardinal Pierre de Bérulle, qui est lui aussi une des très grandes figures de l'école française de spiritualité, qui est le fondateur de la Société de l'Oratoire de Jésus et Marie, alors issu de l'Oratoire de Saint-Philippe Néri dans sa spiritualité, dirions-nous, mais néanmoins distincte et indépendante de cette congrégation. Il y a aussi monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, qui, si je n'ai pas perdu ma mémoire, n'est pas encore bien heureux, sa cause n'est pas introduite, mais c'est une belle et grande figure spirituelle. Il a lu, lui aussi, le souci de la formation du clergé. Il a fondé la congrégation des prêtres de Saint-Sulpice. Il était installé là, dans cette église parisienne. Donc, c'est, vous savez, la congrégation des Saint-Sulpiciens. Évoquons aussi Saint-Jean Eudes, qui a eu ce mouvement de formation du clergé avec la formation, la création de la congrégation de Jésus et Marie, les frères des prêtres eudistes, du nom de leur fondateur, qui a eu aussi, avec les sœurs de Notre-Dame de la Charité, ce désir et ce souci d'aider les pauvres. Et puis au centre de toutes ces figures, peut-être la figure la plus importante du XVIIe siècle catholique français, Saint Vincent de Paul. C'est lui qui est au centre, puisqu'il a été en contact avec presque tous les grands noms que je viens de citer précédemment, et qui fait vraiment figure de maître spirituel pour chacun de ces prêtres fondateurs, de ces prêtres qui ont renouvelé l'Église de France. Il a lui-même fondé la congrégation des prêtres de la mission, appelée communément Lazariste, du nom de l'Église et de la maison Saint-Lazare, qui est leur maison générale de fondation, là encore au service de la formation des prêtres et du clergé, mais plus largement de la formation, et ça peut être noté puisque c'est déjà un peu quelque chose de moderne, de la formation des laïcs, et puis de la propagation de la foi, de la propagation de la bonne nouvelle de l'Évangile dans des œuvres missionnaires, aussi bien en France dans les paroisses que à l'étranger, une congrégation de prêtres missionnaires. Et puis, surtout, je dirais que son grand œuvre, le grand œuvre de Saint Vincent de Paul, c'est la fondation des Filles de la Charité. Aujourd'hui, Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, congrégation religieuse féminine qu'il va établir pour l'enseignement et l'assistance auprès des pauvres et des malades, hein, avec l'aide précieuse de Sainte Louise de Marillac. Parenthèse, nous évoquons les Filles de la Charité. Nous pouvons citer aussi, pour notre édification, Sainte Catherine Labouret, qui était elle-même fille de la charité, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, celle qui a vu la Vierge rue du Bac, puisque c'est aujourd'hui la mémoire facultative, mais néanmoins importante, de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Donc, on peut nous placer aussi aujourd'hui sous la protection de la Vierge Marie et de celle de Sainte Catherine Labouré. Pour en revenir et pour entrer dans la présentation de la figure de Marie Poussepain, pour faire un résumé de ce petit aparté historique, mais qui me semblait nécessaire, je dirais finalement que Marie Poussepain est un petit peu la Louise Marillac dominicaine. En effet, comme je vous le disais, Marie Poussepain est née le 14 octobre 1653 à Dourdan, un petit faubourg prospère près de Paris qui appartenait au diocèse de Chartres. Les parents de Marie, son père Claude Poussepain et sa mère Julienne Fourier, forment un foyer avec de solides et profondes convictions chrétiennes qu'ils transmettent à leurs enfants. Marie est l'aînée de 7 frères et sœurs. Tous vont mourir jeunes, évidemment, XVIIe siècle jusqu'au XIXe, mortalité infantile très forte. Un seul, le plus jeune, va survivre, Claude, son frère. La famille Poussepain travaille, comme beaucoup des familles de Dourdan, à la fabrication artisanale d'objets, de vêtements en soie. Et l'industrie familiale est florissante, elle compte de nombreux jeunes apprentis qui se forment dans leurs ateliers. En 1684, Marie Poussepain reçoit la totale responsabilité de cet atelier après la mort de ses parents. Et la France, non seulement est dans un renouveau spirituel, mais vous savez sans doute qu'elle est aussi dans, elle traverse une période de profonde transformation économique et sociale dans cette seconde moitié du XVIIe siècle. Et véritablement, Marie Poussepain devient à ce moment-là femme d'entreprise. Elle s'adapte plutôt bien à ces changements. Elle n'a pas peur d'introduire même des innovations techniques. Elle fait importer des nouvelles machines de tissage importées d'Angleterre et elle abandonne la soie pour tisser la laine. Sans doute qu'il y a là un effet économique, la laine étant plus efficace, se vendant mieux que la soie. Alors de cette manière, Marie va, dans un premier temps, se distinguer comme pionnière dans une industrie nouvelle. Mais peu à peu, Marie va laisser la direction de son négoce entre les mains de son frère. Ce sera autour de l'année 1691 quand Marie Poussepain va véritablement laisser toute cette responsabilité entrepreneuriale, industrielle à son frère. En effet, depuis son enfance, quand elle vivait auprès de sa mère, Marie était une membre active de la confrérie de la charité. Donc vous voyez le lien avec mon introduction, mon aparté historique précédente. Les confréries de la charité sont les ébauches du travail de l'œuvre de charité fondée par Saint Vincent de Paul, qui sera plus tard au XIXe avec le bienheureux Frédéric Ozanam, précisément les confréries Saint Vincent de Paul. Donc elle appartenait à la confrérie de la charité établie dans sa paroisse. Alors maintenant qu'elle est libre de toute obligation commerciale et de travail, elle se livre totalement et plus intensément aux œuvres de charité. Et c'est nécessaire. À la fin des années de ce XVIIe siècle, qui ne sont pas faciles, il y a des guerres, dans toutes les régions de France, la famine, les épidémies sont abondantes et donc le nombre des pauvres et des malades augmente. C'est alors que vers l'année 1692, le père Mespolier, un dominicain, visite Dourdan. C'est de cette manière que Marie va connaître l'ordre dominicain et trouver dans cette famille spirituelle une réponse à ses désirs d'une vie spirituelle et de charité plus intense. Elle comprend que c'est ce chemin que le Seigneur lui signale, lui indique, et elle décide donc d'intégrer le tiers-ordre laïque, dans un premier temps, de Saint dominique. Et c'est vraiment cet engagement dans le terreur dominicain qui va marquer sa vie spirituelle et plus tard la congrégation dont elle sera la fondatrice. Au début de l'année 1796, Marie Pouspain quitte la ville industrielle de Dourdan pour s'installer à Saville, un petit village pauvre et dans le besoin. Elle décide de s'installer ici et de dédier toute son attention aux plus défavorisés, spécialement les enfants et les malades. Et rapidement, autour d'elle, eh bien, viennent la rejoindre des jeunes filles avec des manques qui n'ont pas les moyens de survivre. Et elle décide de les aider en devenant pour elles institutrices, en leur faisant l'école et en leur apprenant à vivre chrétiennement et à essayer de faire de leur vie un service pour les autres. Et c'est ainsi que naît donc la première communauté des sœurs de la charité dédiée au service des plus pauvres, sœurs de la charité dominicaines qui prennent leur exemple et leur patronage dans celui de la Vierge Marie, dans son mystère de la présentation au temple. À partir de la même année, 1696, Marie Pouspain commence les démarches légales pour faire reconnaître cette congrégation et déjà, fin 17e, le Saint-Siège était pris dans des démarches administratives trop fortes, puisque je vous rappelle que le pape François essaye d'alléger tout ça, et donc ça prend un temps infini. La congrégation ne sera reconnue de droit pontifical qu'en 1724. Mais néanmoins, les constitutions de la congrégation qui ont commencé à être rédigées et qui commencent à se propager dans toute la France sont autorisées et reconnues en 1738 par l'évêque de Chartres. Et donc là, à partir de ce moment, la congrégation peut poursuivre son travail en communion parfaite avec l'Église. Dans son testament, Marie Pouspain recommande aux sœurs d'avoir un zèle vif pour l'instruction de la jeunesse, le soin des pauvres malades, l'esprit de pauvreté et l'amour du travail. Et c'est dans la profondeur de sa foi que Marie Pouspain comprend, arrivée au terme de sa vie, à 90 ans, après avoir commencé sa vie de manière pauvre, libre et sereine, qu'elle la termine vraiment en se donnant complètement dans la prière et le silence, et le Seigneur lui ouvre les portes du royaume le 24 janvier 1744. Voilà tissé à gros traits l'expérience de la vie spirituelle de Marie Pouspain, la fondation de sa congrégation qui perdure encore, ce sera l'objet de la seconde partie de mon intervention, les sœurs de charité dominicaines de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, dites aussi dominicaines de la présentation de Tours, parce que figurez-vous que leur maison mère, entre autres, est à Tours, au couvent de la Grande Bretèche, et d'ailleurs même là que repose le corps, les reliques saintes de la Bienheureuse Marie Pouspain. Nous écoutons, avant de poursuivre notre découverte de la spiritualité de Marie Pouspain, une cantate de Jean-Sébastien Bach. Alors, il était protestant, il n'est parfait, mais c'est la grande figure musicale et spirituelle aussi à travers cet art du grand siècle, du siècle baroque. Nous écoutons la cantate Erbarme dich, mein Gott. Prends pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, à cause de mes larmes, regarde mon cœur. Une cantate tirée de la grande œuvre de Jean-Sébastien Bach, La Passion selon saint Matthieu. Thank you. chers amis auditeurs, nous reprenons notre entretien, notre enseignement autour de la figure de Marie Poussepain. Vous savez, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, qui faisait cette demande à chaque congrégation, chaque ordre de religieux ou de religieuse, de revenir aux fondamentaux, à ce qu'avait à l'esprit du fondateur. Donc l'œuvre et la, je dirais, la vie spirituelle de Marie Poussepain se déploie sous le regard de Dieu, dans la grâce, à travers le service et le travail de chacune des... Elles sont plusieurs milliers, hein, c'est... Je ne donnerai pas de chiffre exact parce que je ne l'ai pas en tête, mais sont assez nombreuses. C'est la congrégation dominicaine apostolique la plus nombreuse, les sœurs dominicaines de la présentation de la Vierge Marie. Donc, chacune des sœurs, là où elle est, eh bien, poursuit cette œuvre de Marie Poussepain. La congrégation est présente sur les quatre continents, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie aussi sans doute, dans 36 pays, donc vous voyez un peu la riche gamme de cultures que cela apporte. Les sœurs restent fidèles à l'esprit de leur fondatrice. Elles sont conscientes des grands changements survenus depuis 3 siècles dans nos sociétés, dans nos cultures, dans notre économie, dans l'écologie. Elles sont soucieuses, et je pense qu'elles sont un exemple, de ce que le pape François nous appelle à vivre, l'écologie au sens développement humain intégral dans toutes ses dimensions. La congrégation est surtout présente en Amérique du Sud. Les sœurs les plus nombreuses se trouvent spécialement en Colombie. Elles tiennent partout, dans toute chacune des provinces, des collèges, des écoles, des universités, des ateliers, des centres de promotion et de formation, une formation, comme je le disais, intégrale, chrétienne, pour les enfants, les jeunes, les adultes, avec évidemment un souci plus particulier pour les plus pauvres. Elle s'occupe aussi de dispensaires ou de centres de santé en Amérique du Sud, aussi bien dans la forêt que dans la montagne, que dans des grands hôpitaux ou des petites cliniques de ville. Elles accueillent chacun, elles défendent la vie, elles apportent un peu de réconfort dans la douleur et offrent l'espérance, notamment aux plus anciens, aux enfants sans foyer, aux marginaux de nos sociétés, les lépreux, ceux qui souffrent d'addiction à la drogue, ceux qui souffrent de maladies psychiques. Voilà, c'est le public vers lequel elles veulent se tourner. Et c'est important de le dire dans cette époque que nous vivons encore aujourd'hui à travers le monde, dans la crise sanitaire, économique et sociale que vous connaissez. Pour donner peut-être un angle plus proche, j'aimerais citer 3 noms de sœurs dominicaines que vous connaissez sans doute. Alors, pas la troisième, ça sera un hommage personnel, mais au moins les 2 premières que je vais citer, vous les connaissez parce qu'elles sont des figures importantes dans le panorama de l'Église de France, et vous ne savez peut-être pas qu'elles sont sœurs dominicaines de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, donc des filles spirituelles de Marie Poussepain. Je pense d'abord à la sœur Anne Lécu, docteur en médecine, qui exerce en tant que médecin en milieu carcéral, docteur en théologie et en philosophie, qui a écrit de nombreux livres de spiritualité, avec vraiment un souci dans l'esprit, là aussi, de sa fondatrice et du pape François, de faire pénétrer la miséricorde dans nos cœurs et dans nos foyers. Tu as osé toucher ma chair, ce n'est pas le titre exact, mais vous le retrouverez. Et puis son dernier opuscule écrit durant la quarantaine du printemps, à Marie, lettre. Et puis aussi une figure que vous connaissez peut-être, la sœur Véronique Margron, qui est elle aussi docteur en théologie, spécialiste en théologie morale, et qui a pu faire parler d'elle dernièrement dans les médias parce qu'elle est la présidente de ce qu'on appelle la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France, donc elle en est la présidente. Et à ce titre, et compte tenu de son expérience aussi comme théologienne, elle mène le bon combat de la foi et un combat de rénovation vraiment et de refondation de notre Église, de vérité face à la crise que nous connaissons des abus sexuels, mais n'oublions pas aussi les abus de toutes sortes, les abus d'autorité, les abus de moraux, les abus spirituels dont notre époque, voilà, qu'elle découvre, qui existait déjà, c'est un mal qu'il faut dénoncer, pour lequel il faut nous convertir et donc demander au Seigneur la grâce de la conversion. Et sœur Véronique a le courage de pointer les choses et d'essayer de donner, non pas des solutions, mais de donner son témoignage, de donner son expérience pour prévenir et lutter contre ces abus. Et puis le dernier nom, comme je vous le disais, est un hommage personnel, sœur Marie-Gabrielle Rebaudy. Il se trouve que c'est la sœur dominicaine de la présentation de laquelle j'ai reçu moi-même la foi et qui, sans doute, a prié pour ma vocation. Je termine notre intervention avec les mots de Saint Jean-Paul II lors de la béatification de Marie Pouspain avec quatre autres vénérables, dont deux dominicains, dont nous aurons peut-être l'occasion de parler, la bienheureuse mère Agnès de Jésus-Galant et puis le bienheureux Hyacinthe Marie Cormier, ancien maître de l'ordre. Voici ce que disait Jean-Paul II à propos de Marie Pouspain. À l'œuvre de l'intelligence croyante doit s'ajouter le témoignage de l'amour agissant, de la charité qui ne passera jamais et demeurera dans l'empire éternel annoncé par le prophète Daniel. Référence au livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 14. De cette charité active, Marie Pouspain fut saisie dès son enfance et elle eut à cœur de se mettre au service des plus démunis dans le tiers-ordre dominicain de Dourdan, sa ville natale. Elle savait en effet reconnaître la vive présence du Seigneur de l'univers dans la personne des plus petits. Servir les plus pauvres, c'est vivre déjà la béatitude du royaume. Marie Pouspain voulut faire de sa vie entière une offrande d'amour, comme le montre le texte des Constitutions qu'elle donna aux sœurs de charité dominicaines de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, fondée par elle à Saint-Ville. Avec ses compagnes religieuses apostoliques, elle décidait de travailler pour l'utilité de la paroisse, pour instruire la jeunesse et servir les pauvres malades. Le feu de l'amour que le Christ est venu allumer sur la terre serait voué à s'éteindre si les familles n'avaient à cœur de l'entretenir. Marie Pouspain livre un message de joie et d'espérance. Née dans une famille qui a porté et soutenu, elle est désormais proposée à notre vénération comme une de nos sœurs en humanité, une fille de Dieu humble et généreuse, capable de comprendre les problèmes que rencontrent nos familles, nos sociétés, et de montrer également dans quelle direction il faut aller en chercher les solutions, dans l'amour qui jaillit du cœur du Christ, roi de l'univers. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce, par l'intercession de la bienheureuse Marie Pouspain, d'une ardente et d'une active charité, qu'il nous accorde de suivre son exemple pour être témoin de sa vérité et servir le Christ à travers nos frères.
Voilà, merci beaucoup, frère Thomas Marie. Je voulais juste cette question que je voulais vous poser parce que cette congrégation a beaucoup souffert lors de la Révolution, comme beaucoup d'autres, était notamment dispersée. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui elle est bien présente, vous l'avez dit, dans plein de pays dans le monde. Je crois qu'il y a plus de 20 communautés en France. Est-ce que c'est le charisme de la fondatrice? Qu'est-ce qui peut
expliquer? Jérôme, je vois que vous préparez vos émissions. Parce que moi, je n'ai pas le détail de l'histoire de la congrégation qui va beaucoup porter dans ma vocation. Donc je le regrette et j'aurais dû aussi moi-même faire ces recherches. Évidemment, comme chaque grande congrégation religieuse, il y a dû y avoir un moment de refondation après la Révolution. Je ne saurais pas vous dire les détails, par qui, comment. Après, il y a des en France quelques couvents. Malheureusement, ça je le sais de sources proches. En France, on manque de vocation. Il me semble que, peut-être je me trompe, il aurait fallu interroger la sœur Véronique Magon, qui est provinciale, mais que la dernière jeune sœur à être entrée est précisément la sœur Anne Écu. Donc, sans vouloir être désobligeant envers ma sœur Anne, que j'aime beaucoup, ça commence à remonter. Donc, elles tiennent quelques couvents avec des sœurs âgées, et puis encore aussi quelques institutions, où elles ont été présentes, où elles le sont moins. Je pense à l'hôpital Saint-Joseph, dont elles n'ont plus légalement la responsabilité, mais elles ont encore le souci, et l'hôpital, la fondation de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille a aussi le souci d'être en lien avec elles. Après l'extension, je pense qu'elle est liée à l'extension missionnaire, comme beaucoup de congrégations au XIXe siècle, peut-être même avant, en Amérique latine, mais ça me semble un petit peu, compte tenu du XVIIe, XVIIIe, ça a dû se faire au XIXe, plus probablement. Comme d'autres congrégations, la congrégation des dominicaines et la présentation est plus forte à l'étranger parce que c'est là que les chrétiens se trouvent. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de chrétiens en France, grâce à Dieu, mais c'est là où il y a la foi la plus vive. Et donc c'est vrai que c'est un fait pour la congrégation de manière générale. Elles sont beaucoup plus nombreuses en Europe du Sud et spécialement en Amérique latine, comme je le disais, en Colombie. Les Colombiennes, elles ont 4 ou 5 provinces, ça marche du feu de Dieu pour y avoir été. Là, pour le coup, elles gardent des hôpitaux, des écoles, et elles n'hésitent pas à surmonter les manches pour aller là où personne ne va, dans les coins les plus reculés de l'Amazonie, des zones montagneuses, de la montagne des Andes. Alors en Colombie, c'est vraiment les prémices des Andes, c'est plus le Pérou, elles sont présentes aussi. Donc le même travail, dans le même esprit que la fondatrice. Voilà un peu ce que je peux dire. Je pense que quels que soient les lieux de présence ou les lieux de vitalité, il faut se faire connaître cette figure, puisqu'elle est bien heureuse, on peut prier pour sa canonisation, pour que son exemple et la dévotion se propagent à l'Église universelle. Ne pas hésiter à faire connaissance à travers leurs livres ou en personne avec les sœurs que j'ai citées, en particulier, mais il y en a d'autres, Anne Écu et Véronique Magron. Frapper à la porte des couvents en France, si on habite près de Dourdan, il y a un petit musée Marie Poussepain à Dourdan, à Saint-Ville aussi. Elles ont essayé, la congrégation, de refaire un noviciat international dans l'une ou l'autre de ces villes, pour justement redynamiser aussi les provinces qui avaient plus de mal à faire germer les vocations, ou un couvent. Alors j'ai eu la chance d'avoir une petite maison en Touraine où il y avait des sœurs jusque dans les années 90 à Loches. Elles sont encore présentes dans la maison mère à Tours, mais dans d'autres lieux, vous avez parlé de 20 communautés, je ne serais pas étonné effectivement qu'elles soient présentes dans 20 communautés, donc ne pas hésiter à participer aux offices avec elles, à mieux les connaître et peut-être à les aider dans leur travail de charité.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, frère Thomas Gillet, pour nous avoir fait mieux connaître, découvrir pour certains, bien sûr, la bienheureuse Marie Poussepain. Merci à vous et on vous retrouve donc le mois prochain. Merci beaucoup.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt.